Je reçois avec moi en studio Madame Jeannette Wanegay, directrice administrative de l'Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées, qui a été créée en 1981 afin d'offrir aux personnes handicapées de différentes origines ethnoculturelles ainsi qu'aux familles une ressource capable de les soutenir dans leur démarche d'intégration et de les orienter vers les ressources qui répondent à leurs besoins. Bonjour Madame Wanegay.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, merci.
Merci de nous joindre en studio. Donc, j'imagine que vous n'êtes pas en poste depuis 1981.
Pas du tout.
Toutefois, je crois que vous pouvez nous dire un peu le contexte dans lequel cet organisme est né.
En fait, l'association multiethnique, c'est une association qui a été créée autour de quelques personnes. C'est des personnes d'origine italienne. C'est des familles, des parents qui avaient des enfants handicapés. Et donc, l'idée est née en 1980. Et l'association a vu donc le jour en 1981, ici au Québec.
Et à Montréal?
À Montréal,
à
tout
Montréal,
à fait, oui.
Précisément. Donc, c'est un organisme qui œuvre à Montréal.
Oui.
Et puis, dans le fond, ce qu'on est porté à croire, en fait, c'est justement que, est-ce que les personnes handicapées issues de l'immigration ou celles faisant partie de communautés ethnoculturelles sont confrontées à des barrières supplémentaires par rapport à des personnes handicapées dites québécoises de souche? Je dis ça entre guillemets.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de barrières. Donc, on peut parler de barrières linguistiques. Et il y a des barrières aussi liées à la méconnaissance des ressources. Il y a des barrières aussi bureaucratiques. Donc, les méconnaissances aussi du fonctionnement du système de santé et services sociaux. Les personnes qui vivent justement, qui viennent d'immigrer au Québec et qui viennent d'arriver, ils sont confrontés à plusieurs problèmes. Donc, le problème d'être immigré, déjà, ça, c'est une barrière, donc l'immigration. Après ça, la langue. Il y a des personnes qui viennent, qui arrivent ici, qui parlent totalement le français impeccable, mais ils ne comprennent pas du tout le service. Donc, ça, c'est le plus grand problème que nous avons avec nos membres.
C'est en fait, ça ne serait pas nécessairement la barrière de la langue comme le fait que le système de services sociaux et de santé au Québec est différent de celui du pays d'origine.
Tout à fait.
Puis, dans quelle mesure est-ce que l'association intervient à ce moment-là?
Donc, nous, on intervient, on a des intervenants qui sont là pour la médiation, donc qui vont faire un pont entre les travailleurs sociaux, donc les ressources en fait, auxquelles nous faisons affaire avec. Ils vont faire la médiation entre les parents des personnes handicapées. Ils vont faire le pont entre les personnes handicapées elles-mêmes, parce qu'on a des adultes des fois, on a des enfants, pour que les deux puissent s'entendre, puissent comprendre justement comment fonctionne le système de santé et des services sociaux.
Et donc, c'est au début de la procédure, surtout, ça va être surtout pour
même
rencontrer,
pendant,
ou c'est
même
pendant?
pendant le processus d'intégration, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape aussi de diagnostic, tout ça. Donc, ils sont toujours là. Ils vont accompagner pendant le processus. Et si ils ont la chance aussi d'avoir le rendez-vous, parce que ça prend du temps. Donc, ils sont là toujours jusqu'à la fin du processus, jusqu'à ce que la personne soit capable de s'intégrer justement dans cette société d'accueil.
Et puis, est-ce que vous rencontrez peut-être une perception différente du handicap venant de personnes justement de différents pays ou différentes communautés?
Dépendamment des origines de la personne, dépendamment des convictions religieuses, et dépendamment de plusieurs paramètres, justement, il y a des perceptions complètement différentes. Et les travailleurs sociaux, justement, des intervenants sociaux sont là pour justement essayer de lier les deux. Donc, la perception que ces gens ont et le système dans lequel ils sont venus s'intégrer. Donc, c'est le travail d'essayer de conseiller les deux. Les intervenants sont là pour ça, pour essayer de conseiller les deux, essayer de les faire comprendre comment ça fonctionne, essayer justement d'essayer de dépasser cette barrière justement de perception, dépendamment de ces plusieurs paramètres dont je viens de vous parler. Oui.
Avez-vous un exemple peut-être plus précis de ces
exemple,
paramètres?
exemple, je vais vous dire un exemple. Il y a des parents qui vont, au début, ils vont dire, mais mon enfant, quand je suis arrivée au Canada, moi, je savais qu'il était en bonne santé, tout ça. Je suis arrivée, ils me disent qu'il y a un problème, le diagnostic, je le comprends, mais en même temps, il ne comprend pas, il ne va pas l'accepter parce que dans ce pays, il n'y en a pas, ça n'existait pas. Ce diagnostic, ça n'existait pas. L'enfant sera suivi, par exemple, ou la personne adulte va être suivie. À un moment donné, ça va passer 2, 3 ans, 5 ans. La personne ne va pas comprendre, mais comment ça se peut que la personne prenne autant de médicaments? Ça fait des années, puis ça se peut pas que ça ne peut pas arrêter. Quand est-ce que la personne va être autonome, en bonne santé, tout ça? Mais c'est quoi? Donc, ils ne comprennent pas que c'est quelque chose, c'est un handicap et tu vas rester toute la vie. Alors, l'intervenant est là pour expliquer parce que dans son pays, il n'y avait pas ce diagnostic. Cette maladie ou ce genre de handicap n'existait pas. Probablement dans son pays, il n'y a personne qui lui a dit ça, que ça existe. Donc, il faut travailler toujours à entrer, d'expliquer, pour dire voici, c'est comme ça, c'est, le diagnostic a été déclenché, déclaré. Donc, il faut vivre avec ça, c'est comme ça que ça fonctionne.
Puis, c'est pour amener ces personnes-là vers une plus grande autonomie. Finalement.
Tout à fait. Puis, à accepter finalement, accepter la situation dans laquelle la personne est handicapée et vit.
Oui, et avec les ressources qui viennent avec ce diagnostic, est-ce que le statut de résidence change quelque chose aux ressources auxquelles on a droit? Que je pense à ce que ce soit des résidents permanents, résidents temporaires ou des personnes réfugiées, par exemple.
Est-ce que ça change beaucoup? Ça change beaucoup. Il y a des personnes qui arrivent avec le statut de résident permanent, ils ont accès au système. Il y a des enfants qui vont naître et des personnes qui ont été refusées. Et ces enfants, ils sont citoyens, par exemple. Mais le fait que les parents ne sont pas, n'ont pas de statut, mettons, de résidence permanente ou citoyenneté canadienne, etc., les parents ne vont pas recevoir nécessairement les allocations familiales. Et cet enfant qui est handicapé, malgré que l'enfant est citoyen canadien, il va avoir des soins comme les autres enfants citoyens, mais il va y avoir des limitations parce qu'au niveau financier, les parents ne seront pas capables d'arriver jusqu'à combler tous les besoins.
Tout à fait, de bénéficier des mêmes rétributions, en fait, que les autres parents québécois peuvent avoir.
Oui, ou les parents immigrants ou les parents ethnoculturels qui ont le statut de résident ou de citoyen peuvent avoir.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'association multiethnique peut faire pour des parents dans cette situation?
Donc, l'association est là pour l'accompagner, en fait, pour aider à ses parents à comprendre, pour essayer de les ressourcer, de les référer aux organismes communautaires qui travaillent avec nous pour que ces gens puissent justement avoir un peu plus de soutien. Donc, on les réfère aux autres aux organismes communautaires qui peuvent leur donner plus de soutien. On essaie de les accompagner, on essaie de faire des rencontres, de groupes, on essaie d'essayer de les outiller finalement pour essayer de les accompagner justement dans cette période d'angoisse, dans cette période de questionnement. Et pendant justement cette période difficile où les parents, mettons pour cet exemple-là d'immigration, où les parents ne peuvent pas avoir les soins comme les autres, donc avoir finalement les moyens financiers comme les autres, on va essayer d'accompagner cette famille à obtenir des papiers d'immigration. On va essayer de donner des lettres de recommandation, de les référer aux autres organismes, mettons en immigration, etc. Donc, on va essayer de trouver des avocats qui sont spécialisés, qui sont plus habiles, donc pour essayer de trouver des moyens pour que cette personne reste au Canada. On va essayer de tout faire pour éviter la déportation, finalement, pour que cette famille puisse rester au Canada, donner les moyens possibles pour cet enfant. Oui. Pour garder l'enfant au Canada, parce que des fois aussi, il se retrouve dans une situation où la personne est obligée de retourner au pays et de faire un choix entre laisser l'enfant, entre les mettre d'un tutelle ou de partir avec cet enfant et attendre 18 ans, mais tout c'est un enfant mineur, pour que l'enfant puisse revenir au Canada avec les parents, etc.
Voilà, et c'est plus compliqué si l'enfant est en bas âge.
C'est ça, c'est vraiment compliqué pour ces familles.
Donc, on essaie le plus possible d'éviter de vivre ces situations déchirantes.
Oui.
Avec quels organismes vous faites surtout affaire, avec lesquels travaillez-vous?
Les organismes communautaires avec lesquels nous travaillons, pour l'instant, là, il y a le Centre social des deux immigrants. Nous travaillons avec Praïda, c'est beaucoup plus avec Praïda, donc qui nous envoie des personnes sans papier. Et c'est beaucoup plus les personnes qui passent par là qui viennent chez nous. Nous, on fait beaucoup plus affaire avec des avocats en immigration, par contre. Et C'est avec cela que nous pouvons aider ces personnes qui ont des problèmes en immigration, qui ont des problèmes justement pour
Des
les
problèmes
papiers.
plus techniques,
Oui, c'est ça.
plus
Donc, c'est beaucoup
spécifiques.
plus en cherchant des avocats plus habiles qui nous aident ces personnes.
Puis, vraiment, l'intégration sociale est au cœur, en fait, de l'association multiethnique. Pouvez-vous nous parler du programme Je découvre?
Bon, c'est un bon programme. Ça, c'est un programme qui est dédié aux personnes adultes et des personnes ayant une déficience intellectuelle. Le programme Je découvre est divisé en deux volets. Le premier volet, c'est francisation. Et le deuxième volet, c'est des ateliers artistiques. Donc, il y a des adultes qui viennent chez nous pour le cours de francisation le matin. Ils apprennent la matière de base de français pour qu'ils puissent, à un moment donné, aller dans d'autres écoles spécialisées plus avancées. Alors, nous, ce qu'on fait, donc, c'est vraiment de les initier, les personnes qui arrivent sans en connaître aucun mot en français. Et après ça, d'un bout à l'autre, là, on voit à la fin de l'année qu'il y a un ou deux qui s'en va dans une autre école, qui va changer de classe. Et c'est notre fierté, justement, de les voir partir, aller ailleurs. En après-midi, on a un groupe des adultes encore en déficience, et il y a une déficience intellectuelle qui viennent pour faire des tableaux, qui vont faire des peintures. Et ça, c'est des peintures aussi qui sont très valorisées. À chaque année, on les envoie au Centre Saint-Pierre, on les expose et on les vend avec justement l'autorisation de ces personnes. Il y a une déficience intellectuelle et ça les donne beaucoup d'estime de soi. On est en train aussi justement de mettre en projet quelque chose pour faire une vitrine sur Internet et pour que la majorité de la population puisse justement avoir accès à ces bonnes œuvres de ces gens.
Oui.
Oui.
Combien il y a de personnes qui participent à ces ateliers?
À peu près 24. On a eu 24 l'année dernière dans chaque groupe donc de francisation. Le groupe de francisation et le groupe des ateliers. Donc, en tout, on a eu 24 différents. Donc, on en avait 32, en fait, en tout.
C'est un bon taux de participation. En terminant, pouvez-vous nous parler des cafés-rencontres que vous organisez?
On a des cafés-rencontres. On a aussi des groupes des Femmes sans frontières. On a des groupes, donc on a quatre catégories. Des cafés-rencontres, des groupes des Femmes sans frontières. On a aussi des groupes des parents. Des enfants vivant avec l'autisme. On a aussi des groupes de personnes ayant une déficience visuelle. Donc, les cafés rencontres, c'est ouvert à tout le monde, hommes, femmes confondus, membres ou pas membres. Et c'est des sujets différents, toujours autour de l'intégration, l'estime de soi, découvrir le Québec, socialiser, etc. Et on a aussi donc ces groupes de femmes sans frontières, c'est seulement pour les femmes handicapées, les parents des personnes handicapées, mais des femmes toujours, ou membres ou sans membres. Le même, c'est les mêmes
C'est
thèmes,
la même formule.
exactement. Et on a aussi des personnes ayant une déficience visuelle. Ils sont animés par un intervenant qui a aussi le même problème, donc il y a une déficience visuelle. Et ça, c'est la fréquence pour le groupe de personnes ayant une déficience visuelle. Ça vient de commencer. C'est vraiment un essai, là. Donc, ça vient comme une fois par mois. Même pas. C'est comme à peu près
On
une fois
commence.
c'est ça. On vient de commencer comme une fois. Je pense qu'on a fait deux fois seulement par l'année passée. Là, on a fait deux fois seulement toute l'année. Mais ça commence pour les personnes ayant pour les enfants ayant l'autisme. Donc, ses parents aussi se rencontrent pour échanger, pour se retrouver ensemble, pour dire on n'est pas les sœurs, il y a d'autres parents qui vivent les mêmes problèmes que nous. Donc voilà.
Génial. Madame Jeannette Wanegué, vous êtes directrice administrative de l'association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées, ameiph.com, si on veut avoir plus d'informations. Merci d'avoir été avec nous.
Merci pour votre invitation. Bonne journée.